Coulisses politiques avec Henri Vernet.
96% des villes avaient déjà élu leur maire dès le premier tour, il y a une semaine, mais le second tour des municipales ce dimanche 22 mars était très attendu dans les grandes villes, notamment Paris, Lyon et Marseille. Trois villes qui restent à gauche, une soirée électorale marquée par les critiques autour des alliances entre plusieurs candidats écologistes et du PS avec LFI, des accords qui ont d'ailleurs souvent abouti à des échecs. Bonjour à tous, je suis Loïc Barrière. Coulisses politiques, c'est une émission et un podcast disponible sur votre radio, sur Spotify, radioorient.com et nos réseaux sociaux. Comme chaque semaine, nous retrouvons le journaliste et écrivain Henri Vernet. Bonjour.
Bonjour.
Alors, Henri Vernet, la droite reste le premier parti en termes d'élus locaux, suivi par le Parti Socialiste. Le RN progresse mais gagne peu de grandes villes, à l'exception de Nice, grâce à son allié Éric Ciotti. À gauche, le débat porte sur la question des alliances. Vous, que retenez-vous de ce second tour des élections municipales au niveau national ?
Disons qu'on a un paysage politique qui n'est pas facile à lire, ou plutôt qui offre plusieurs lectures différentes. C'est pour ça d'ailleurs que dès hier soir, l'annonce des résultats, on voyait les différents responsables de partis qui chacun revendiquaient, sinon une victoire, en tout cas des gains importants pour leurs diverses formations. Et donc qu'est-ce que ça reflète ? Ça reflète un pays qui décidément n'est plus divisé selon le vieux clivage traditionnel droite-gauche, alors qui avait sauté en 2017 avec l'arrivée du macronisme, cette force centrale qui a un peu bousculé tout ce système. Et là, donc, on est vraiment dans ce paysage, dans cette carte électorale très fragmentée, où on a diverses forces, donc extrême-gauche, extrême-droite, gauche et droite, disons, plus traditionnelles, et un centre, donc, disons, le bloc central présidentiel ou ex-présidentiel, comme on voudra, qui, finalement, sauve un peu les meubles par rapport à une campagne qu'il avait mal démarré. Donc c'est cela qui me paraît le plus frappant. Et puis bien sûr, qu'est-ce qu'il en ressort ? Ce sont des règlements de compte, on pourrait dire, en tout cas des couteaux qui s'affûtent dans les diverses familles, et évidemment principalement dans la famille de gauche au sens large, hein, où la question des alliances que vous avez évoquée dans votre présentation, alliance entre LFI et le PS, Mélenchon-Olivier Faure pour simplifier, on voit bien que la bagarre, là, en vue de 2027, de la présidentielle, a vraiment commencé et que c'est là qu'elle sera le plus dure. Mais enfin, on constate également, ça y est, un démarrage presque sur les chapeaux de rouge, j'allais dire, à droite, également sur ce terrain-là.
Henri Vernet, parlons de quelques villes emblématiques. D'abord Paris. Pourquoi Emmanuel Grégoire a-t-il gagné alors que Rachida Dati a bénéficié de la fusion avec la liste de Pierre-Yves Bournazel, qui lui-même n'a pas souhaité être candidat, et Sarah Knafo qui s'est retirée dans l'espoir de faire gagner la droite? On va d'abord écouter les mots d'Emmanuel Grégoire juste après sa victoire.
Ce soir, c'est la promesse. Par cette victoire, une promesse exigeante, c'est la victoire d'une certaine idée de Paris. Un Paris vivant, un Paris progressiste, un Paris populaire, un Paris pour tous. Oui. Grâce à cette large mobilisation, l'Union des droites ne dirigera pas Paris. Parce que tout dans l'âme de notre capitale rejette l'idée d'un Paris rabougri. L'idée d'un Paris qui trie ses habitants. Ce soir, les Parisiennes et les Parisiens ont adressé un message à Jordan Bardella, à Marine Le Pen, à Sarah Knafo et à ceux qui ont œuvré en coulisses pour l'union de ces droites. Et ce message est clair, Paris n'est pas et ne sera jamais une ville d'extrême droite.
Henri, on vient d'écouter le nouveau maire de Paris, Emmanuel Grégoire, qui a d'ailleurs marqué les esprits dimanche soir en arrivant à l'hôtel de ville en Vélib et en repartant en métro. Qu'est-ce que vous retenez de ses premiers mots après sa victoire ?
Plusieurs choses. Déjà, cette victoire, elle marque que la politique, on le dit souvent, hein, c'est pas une affaire d'arithmétique, c'est-à-dire que vous avez beau additionner les scores des uns et des autres en cas de fusion, de ralliement, c'est pas cette arithmétique qui débouche forcément sur une victoire ou une défaite d'ailleurs. C'est une affaire de dynamique. Et c'est vrai que Emmanuel Grégoire, il avait la dynamique pour lui. C'était donc ce qui était sorti du premier tour. Et malgré un entre-deux-tours un petit peu calamiteux par moment de sa part, malgré en revanche une construction politique qui était franchement plutôt en faveur là de Rachid Dadati, c'est-à-dire que son adversaire avait vraiment bénéficié sur le papier des meilleurs atouts, c'est-à-dire fusion, ralliement donc avec la liste de centre-droite, donc dirigée par Pierre Bournazel, alors même si lui-même en revanche n'avait pas franchi ce pas-là, le ralliement de l'extrême droite, hein, de Sarah Knafo. Donc disons que sur le papier, elle devait, non pas forcément combler son retard, mais enfin, elle reprenait des couleurs. Bah non, c'est encore une fois, c'est la dynamique qui s'est imposée, donc ça l'a installée au premier tour, et donc la gauche a gardé Paris. Alors bien sûr, c'était très emblématique, d'une part parce que Paris, c'est la capitale, parce que pendant longtemps, ça a été considéré un peu comme un marchepied pour la présidentielle. Alors évidemment, tout le monde songe à l'exemple de Jacques Chirac, mais d'autres après lui ont eu cette idée en tête d'avoir d'abord Paris et puis de marcher vers l'Elysée. Delannoy lui-même peut-être l'avait caressé un moment. Anne Hidalgo, bien sûr, l'avait fait, mais avec l'échec retentissant que l'on connaît, c'est-à-dire qu'après avoir promis aux Parisiens qu'elle n'irait pas vers l'Elysée, elle y était allée pour enregistrer la plus grosse débâcle à gauche, pour le PS, avec moins de 2%. Mais enfin, cette idée, elle est là, donc c'est emblématique pour ça. C'est emblématique aussi, bien sûr, de la gestion de la gauche. Hein. C'est 25 ans, depuis 2001, la gauche est aux commandes, donc Bertrand Delannoy, Anne Hidalgo et désormais Emmanuel Grégoire. Donc ça, c'est vrai que c'est important. Il y avait également, malgré tout, deux projets de société pour la capitale. Une large place quand même consacrée depuis des années désormais à l'environnement, à ce souci, à une espèce de mobilité, les vélos, enfin tout ce qu'on connaît, le fait quand même de vraiment réduire considérablement la place de la voiture. Tout ça, c'était la marque de la gauche. La droite, avec Rachida Dati, pouvait revenir là-dessus. Bon, il y a vraiment des projets qui se sont fait front.
Henri Vernet, à Paris, il y a une particularité, c'est que Emmanuel Grégoire a refusé de s'allier avec Sofia Chikirou, qui s'est maintenue au deuxième tour. C'était plutôt risqué pour lui, puisque Sofia Chikirou aura un groupe au Conseil de Paris.
Alors c'était risqué, mais c'était un risque calculé, justement conforté qu'il était par sa large avance sur ces deux poursuivantes. Mais vous avez raison, elle aura un groupe, mais justement c'est là aussi qu'il faut mettre un focus sur Paris, parce que c'est un cas d'école de ce qui se passe avec les alliances ou non-alliances. En l'occurrence, en refusant cette alliance, en inscrivant sa liste de deuxième tour telle qu'elle était constituée au premier tour, donc par ce rejet net, qui apparaissait logique et cohérent aux yeux des électeurs, quand on songe aux mois de campagne qui ont précédé, où Chikirou n'avait de cesse de cibler, d'envoyer ses flèches sur Emmanuel Grégoire, sur le socialiste, bien davantage que sur la candidate de droite, Rachida Dati. Donc il est resté cohérent également avec les valeurs qui étaient prônées par les dirigeants de son parti, par la direction du PS, qui était justement de dire non, pas d'alliance, après tant que, en tout cas, que Jean-Luc Mélenchon et ses partisans n'auront pas clarifié leur rapport avec la violence politique.
On reviendra sur ce sujet, mais Olivier Faure n'a pas toujours été très clair.
Complètement, mais j'allais y venir. C'est vrai qu'il a été très clair jusqu'à la veille du premier tour ou jusqu'au matin du premier tour, et puis après, plus du tout, parce que c'est un petit peu ça. À un moment, le pragmatisme, vous savez, la politique, souvent, c'est aussi de la tambouille électorale. Et c'est vrai que dans les jeux d'alliance, dans le pragmatisme, quand vous êtes confronté à une élection que vous pouvez perdre, eh bien là, toutes les alliances, toutes les compromissions, presque, pourrait-on dire, sur le plan moral, puisqu'on a élevé si haut les valeurs avant les scrutins, elles deviennent possibles et urgentes. Mais vous avez raison, je pense qu'on pourrait y revenir pour d'autres villes. Mais il y a en effet cette idée. Alors, et donc, en choisissant de rester, Sofia Chikirou, il faut quand même remarquer qu'elle a nettement réduit son score, puisqu'elle est passée sous la barre des 10%, je crois autour de 8% au second tour, donc 3 points de moins que ce qu'elle avait réussi le dimanche précédent. Donc on voit quand même que ses électeurs ne l'ont pas suivi dans cette espèce de jusqu'au boutisme. Après, il faut reconnaître aussi une chose, c'est que quand vous vous retirez, donc ce qui aurait été le cas d'autres villes, évidemment de Marseille, dont je pense qu'on dira un mot, ça veut dire aussi que vous renoncez justement à peser dans un conseil important. Et ça, alors en l'occurrence, c'est pas le cas de Sophia Chikirou puisqu'elle est insoumise, mais ça, par exemple, c'est quelque chose qu'ont connu les socialistes de manière assez douloureuse à l'échelon régional, puisque à deux reprises, aux élections régionales de 2015 et de 2020, le PS s'est retiré du second tour dans plusieurs régions, justement pour barrer la route au Rassemblement national. Et ça, c'est quelque chose qui a pesé. Donc c'est un souvenir qui compte.
Au fond, Henri Vernet, pourquoi Rachida Dati a-t-elle perdu ?
Oui, non, mais cette question, elle va vraiment interroger la droite pendant un bout de temps. Hein, parce que sur le papier, Paris, c'était vraiment gagnable pour la droite, disons pour le centre-droite. Pourquoi ? Ben d'abord, parce que la gauche y est depuis longtemps, on l'a dit, il y a toujours une usure du pouvoir. Là, c'est vrai qu'on sera au cinquième mandat consécutif d'un maire de gauche. Et en plus, son mandat durera très probablement un an de plus, c'est-à-dire 7 ans au lieu de 6, parce que sinon ça coïnciderait avec la présidentielle de 2032, et dans ces cas-là, on sait que souvent on décale les scrutins locaux. Et donc l'usure du pouvoir, ben non, ça n'a pas marché. De même qu'il y avait un désir d'alternance qui était vraiment éprouvé par une large part de Parisiens qui justement trouvaient qu'il y avait un peu trop de lutte contre les automobilistes, que les changements ne leur plaisaient pas trop. C'est aussi la capitale, l'endroit où Emmanuel Macron, que ce soit en 2017, que ce soit en 2022, a fait ses meilleurs scores. Donc c'est une ville qui était gagnante. Alors pourquoi, en revanche, est-ce que Renaissance s'est alignée derrière Pierre-Yves Bournazel, donc pas un pur produit macroniste, d'une part, et que d'autres cadres très importants du parti présidentiel, dont d'ailleurs le président lui-même, Emmanuel Macron, et une partie de son gouvernement, ont choisi Rachida Dati, donc la candidate LR, qui d'ailleurs qui sortait du gouvernement Emmanuel Macron, c'est sans doute un raté que devrait examiner ce camp-là. Peut-être qu'une candidature, par exemple, d'un Gabriel Attal aurait donné un résultat différent. Bon, on ne va pas refaire l'histoire, mais ce qui est certain, c'est que dans l'équation, il y a une part de rejet de la personne de Rachida Dati par nombre d'électeurs, donc y compris nombre d'électeurs du centre et de la droite, une équation personnelle qui a pu jouer dans cette défaite donc de la droite. Et pour LR, c'est quand même une défaite importante parce que évidemment la droite misait beaucoup sur une prise, une conquête de Paris.
La personnalité compte beaucoup dans les élections. Finalement, Rachida Dati, qui a été très appréciée par son côté dynamique, ses petites phrases dans les médias. Là, on a l'impression que ça l'a plutôt desservi dans cette élection.
Oui, vous avez raison. C'est vrai que c'est une personnalité qui, en effet, peut séduire par ce côté, son dynamisme, un peu ce que vous avez décrit, sa pugnacité. C'est construite de manière assez forte. Elle a détonné au début dans le paysage politique, mais ça s'est également accompagné d'une certaine brutalité, d'un certain cynisme. Elle le disait d'ailleurs elle-même à un moment dans sa campagne, elle a dit écoutez, ne me prenez pas pour ce que je suis mais plutôt pour ce que j'apporte, c'est-à-dire l'alternance. Le fait est d'ailleurs que donc j'étais encore au Parisien à l'automne dernier quand on a commencé à faire les premiers sondages sur ces municipales, et on voyait bien qu'en termes de notoriété, Rachida Dati, elle écrasait tous les autres concurrents, elle était bien au-dessus, mais c'était également la plus clivante. Et justement dans cette élection-là, c'est d'ailleurs également vrai pour Marseille et également Lyon, c'est-à-dire les trois villes de la loi PLM, Paris, Lyon, Marseille, la personnalité, oui, joue d'autant plus que pour la première fois en 2026, dans ces trois villes, on a mis un bulletin directement pour la tête de liste, donc directement pour le maire. Donc oui, la personnalité, elle a joué.
Henri Vernet, à Marseille, l'enjeu était très important puisque le RN était en bonne position au soir du premier tour face au maire sortant, Benoît Payan, qui a été largement réélu dimanche soir.
Oui, et là aussi, c'était un vrai test. Est-ce que le barrage républicain, le front républicain, allait jouer ou non ? Benoît Payan, il était encore plus net que Emmanuel Grégoire. Enfin, plus net, en tout cas plus rapide. C'est-à-dire que dès le lundi matin, quasiment aux aurores, donc le maire sortant socialiste, le printemps marseillais, était allé déposer sa liste identique, là aussi au premier tour, en préfecture pour le second, c'est-à-dire écartant d'emblée toute idée même, toute discussion avec son rival LFI, Sébastien Delogu.
Tout en lui demandant tout de même de retirer sa liste, ce qu'il a fait.
Exactement, et c'était logique qu'il le demande. Pourquoi ? Parce qu'à Paris, il n'y avait pas un candidat d'extrême droite en la personne de Rachida Dati. Tandis que à Marseille, c'était le cas, puisqu'en effet, ils étaient quasiment au coude à coude à l'issue du premier tour, Benoît Payan et Franck Alizio, le candidat RN. Et donc là, c'est vrai que la logique du Front Républicain, c'est-à-dire du retrait de la liste arrivée derrière, à gauche, était dans la logique du comportement de la gauche face à pareil cas de figure.
À Lyon, Grégory Doucet l'a emporté, mais avec une courte avance face au candidat de la droite et du centre, Jean-Michel Aulas. Jean-Michel Aulas qui conteste d'ailleurs les résultats, comme on va l'entendre.
Alors c'est vrai que M. Doucet en rajoute un peu, mais à sa place, je ne ferai pas le fier. Les résultats semblent à peu près connus, et vous le voyez, ils sont beaucoup plus serrés, non seulement que ceux qui avaient été annoncés par les médias, mais aussi par le maire sortant. Il y a probablement moins de 1000 voix, ou un peu plus de 1500 voix, de différence, et c'est la raison pour laquelle, compte tenu des nombreuses irrégularités qui se sont produites pendant le scrutin, nous avons déposé un recours. Je prends donc acte de l'avance infime de M. Doucet et tiens donc d'ores et déjà officiellement à exprimer mes réserves quant au résultat final. Fait de ces très nombreuses irrégularités.
On vient d'écouter l'ancien patron de l'OL, qui était donc candidat face au maire sortant réélu, Grégory Doucet. Sur le papier, c'était lui qui devait être le maire de Lyon quand on regarde les sondages qui lui étaient très favorables quelques mois avant ces municipales.
Oui, c'est vrai que c'était presque un tapis de rose qui lui était promis, qui lui était annoncé. D'ailleurs, donc il vient de la société civile, vous l'avez rappelé, l'ancien patron de l'OL, mais il avait eu le ralliement assez net et assez rapide du bloc central, disons, hein, c'est-à-dire depuis Renaissance, en passant par le Modem et en allant évidemment jusqu'à LR, ce qui fait d'ailleurs que chacun revendiquait un peu la paternité. Et quand la victoire était annoncée, chacun justement la revendiquait. Après, quand la défaite s'est dessinée, c'est évidemment un peu moins évident. Mais c'est vrai qu'il était largement le favori des sondages. Cela dit, ça s'était nettement réfréné au fur et à mesure de la campagne et notamment des débats. Parce que qu'est-ce que ça montre finalement ? Que quelqu'un de la société civile, c'est très bien, ça me donne de l'air hein, à la politique dans notre pays, qu'il y en a bien besoin. Néanmoins, quand vous faites une campagne médiocre, c'est une campagne médiocre. Et donc, vous en payez les conséquences. Et c'est vrai que très sincèrement, la campagne de Jean-Michel Aulas, elle n'était vraiment pas terrible. On a vu quelqu'un qui maîtrisait mal les dossiers, quelqu'un qui n'était pas à l'aise dans la joute verbale, qui d'ailleurs à un moment a tenté d'esquiver un peu le débat.
Qui lisait ses fiches,
voilà, qui était vraiment pas, en quelque sorte, qui paraissait pas au niveau de ce qu'il prétendait, c'est-à-dire diriger la 3e Île-de-France. Lyon, c'est en plus, Lyon, les projecteurs sont beaucoup sur cette ville. C'est là d'ailleurs que s'était déroulé le drame de la mort du jeune militant nationaliste Quentin dans une RIX avec des membres du groupe Antifa Jeune Garde, enfin bref, c'était vraiment sous les feux des projecteurs. Et puis, bien sûr, l'enjeu pour les Verts. Hein, Lyon, c'était la plus importante des conquêtes des écologistes en 2020. Donc, une ville sous les projecteurs et une campagne franchement ratée. Alors, on verra bien ce que donnera son recours. Mais disons que, de toute façon, aller après se battre sur le tapis vert, c'est jamais très glorieux. Et surtout, ça n'augure pas d'une implantation durable dans le paysage politique d'une ville.
Henri Vernet, le Rassemblement national est donné favori pour l'élection présidentielle. Lors de ces municipales, il n'y a pas eu de grande percée, mais jamais ce parti politique n'aura eu autant de conseillers municipaux, qu'ils soient dans la majorité ou dans l'opposition. Le RN progresse toujours malgré tout et devrait avoir un groupe au Sénat au mois de septembre.
Oui, alors même si c'est pas forcément dans le radar au premier chef des Français ce qui se passera au sénatorial en septembre, mais je reviens juste sur la première phrase que vous prononciez. Oui, vous avez raison hein, de faire le rapport entre ce RN qui caracole dans les sondages quand on parle de 2027, que ce soit d'ailleurs avec Jordan Bardella ou avec Marine Le Pen. Et c'est vrai que quand on prend là, si vous prenez le cumul des voix qu'ils ont pu rassembler au premier et au deuxième tour, les candidats, je crois qu'il y avait de l'ordre de 600 listes hein, du RN à ces municipales. municipales. Le cumul des voix et surtout le score réalisé au, comment dire, à l'échelon national est bien inférieur à celui des sondages. C'est-à-dire qu'on est d'un côté bien au-delà des 30% en général, hein, au fil des enquêtes d'opinion. Et là, on est beaucoup plus sur un étiage entre 10 et 15%. C'est un rapport, c'est ça, de 1 à 3 pratiquement. Mais bon, c'est pas illogique, c'est comme ça. Les municipales, ce n'est pas une élection, ce sont 35 000 élections, c'est-à-dire le nombre de communes, et donc des cas de figure très différents.
Henri Vernet, le RN, même si ça n'est pas spectaculaire, est présent dans de très nombreux conseils municipaux.
Exactement, vous avez raison de souligner ça, et même, non seulement ils sont présents, mais ils prennent des mairies. Là, ils sortent de ces élections avec, sauf erreur, 60 à 70 villes dont ils ont désormais les commandes de la mairie, et ça, c'est très important. Hein. D'abord, Bardella, au début de la campagne, de manière assez prudente, il n'avait pas fixé d'objectifs chiffrés. Il avait dit, on va prendre des dizaines de villes, et puis sans plus, quoi. Il se retrouve avec 70, alors qu'à un moment, c'était plutôt une cinquantaine qui était escomptée. Alors, bien sûr, ce sont des villes petites et moyennes. Certains font plutôt ressortir les échecs ou les déceptions, en tout cas, du RN. C'est vrai qu'ils échouent donc à conquérir Marseille, ça, on l'a vu. Néanmoins, à Marseille, il y a quand même un score en nombre de votants du RN qui est impressionnant dans cette ville. Ils ont également pris des mairies de secteur. Donc, ça aussi, c'est important pour
et
eux.
Et ça veut dire que le RN sera exactement. Et ça, le groupe d'opposition le plus important à la mairie de Marseille.
Exactement. Et ça va peser. Ça augure d'ailleurs d'une gestion assez âpre de la ville, hein, parce que ne serait-ce que par exemple sur des questions qui ont beaucoup agité la campagne, à commencer par exemple par les narcotrafics qui sont un vrai fléau à Marseille, sur peut-être l'insalubrité d'une partie de la ville. Enfin, tout cela, on va bien voir que là, ça va se heurter. Et avec un fort groupe RN, le maire élu aura fort à faire. L'échec, évidemment, aussi, qui est très relevé, c'est celui de Toulon, où la ville, alors elle aussi, une ville de plus de 100 000 habitants, donc très importante, là aussi qui semblait promise à la candidate Laure Lavalette, par ailleurs porte-parole du RN au plan national, et puis finalement elle échoue parce que face à elle, a réussi à s'unir, à se retrouver la droite, disons, plus traditionnelle, et donc on a tendance à focaliser un peu là-dessus, mais donc je reviens à cela, il faut vraiment compter avec toutes ces villes qui ont été prises, avec tous ces conseillers donc désormais municipaux qui sont enregistrés, et puis également avec ce qui s'est passé à Nice, où là, qui est revendiqué comme une victoire par le RN, puisque c'est leur allié, le patron de l'UDR, Éric Ciotti, donc hein, on se rappelle, qui vient des LR, et qui a pris la ville à Christian Estrosi, d'abord qui était installé là depuis longtemps, et qui était lui soutenu par le bloc central, et qui a d'ailleurs avait largement dragué à gauche dans l'entre-deux-tours pour une tentative désespérée de garder sa ville. Donc tout cela, c'est également revendiqué par le RN, ce qui est normal puisque c'est leur allié.
Avec une candidature de gauche qui s'était maintenue au second tour à Nice.
Oui, alors elle, je pense qu'elle aura des problèmes avec son parti parce que c'est vrai que normalement, dans l'application, disons, logique du Front Républicain, la candidate de gauche, donc en l'occurrence écolo, comme vous l'avez rappelé, elle aurait dû se retirer. Est-ce que ça aurait changé le résultat? C'est peu probable, même s'il est toujours difficile de refaire l'histoire. Mais donc, globalement, pour le RN, oui, il y a une progression qui est très nette, qui se fait désormais scrutin après scrutin. Ils ont même largement rattrapé le revers qu'ils avaient pu enregistrer en 2020 après des premières conquêtes en 2014. Donc, il se maintient. Et le résultat, vous l'avez évoqué à l'instant, c'est qu'à l'automne, il y aura des sénatoriales, des élections sénatoriales. Et le RN, parce qu'on le rappelle, les sénatoriales, c'est un scrutin indirect avec des grands électeurs un peu à l'américaine. Et le RN, qui jusqu'à présent n'a eu qu'un ou deux sénateurs, pourrait désormais logiquement tabler sur une dizaine de sénateurs à l'automne, ce qui lui permettrait pour la première fois de constituer un groupe au Sénat.
Comment peut-on interpréter les résultats dans les villes où LFI a gagné? Je pense notamment à Roubaix, à La Courneuve, à Saint-Denis il y a une semaine avec le nouveau maire Bali Bagayoko. Je pense aussi à Vaux-en-Velin et Vénissieux. Pour LFI, c'était une bonne soirée, ce second tour, même s'il n'y a pas eu la percée qui avait été évoquée lors du premier tour?
Oui, c'est vrai que c'était moins spectaculaire que ce qui semblait ressortir du sort du premier tour. Mais néanmoins, oui, ils peuvent plutôt se féliciter parce qu'il y a vraiment un gain électoral qui est fort. Et surtout, il y a une validation de leur stratégie, de la stratégie d'ailleurs singulièrement d'un Jean-Luc Mélenchon qui la met en œuvre depuis plusieurs années, c'est-à-dire d'aller chercher un électorat dans les villes populaires, dans des quartiers dits difficiles, hein, très souvent, parce que les villes que vous venez de citer, eh bien, c'est cela en termes de sociologie. Et surtout, ce sont des endroits où on vote assez peu. Alors, cela dit, on a vu encore ce dimanche que la Seine-Saint-Denis a été très abstentionniste. Néanmoins, il y a quand même ces succès qui sont enregistrés. Et donc ça, c'est une stratégie qui finalement paraît payante aujourd'hui pour LFI et évidemment sur laquelle ils vont capitaliser en vue de la présidentielle. Donc ça, c'est un succès important. Il y a également des petits succès LFI dans des endroits, comment dire, plus périurbains ou plus ruraux. Donc, globalement, c'est vrai que c'est rien de spectaculaire chez eux, mais quand même une présence, une implantation qui est là, alors qu'elle était inexistante il y a très peu de temps.
Henri, le Parti socialiste avait exclu tout accord national avec la France insoumise après les ambiguïtés de Jean-Luc Mélenchon sur des patronymes juifs. Ça, c'était au soir du premier tour. Et pourtant, le PS a accepté une série d'alliances, cette fois au niveau local avec LFI, pour contrer la droite ou l'extrême droite. Comment interpréter ce que certains adversaires de la gauche qualifient de double discours? Des alliances qui n'ont pas toujours été payantes d'ailleurs. Il y a aussi des critiques qui viennent au sein du Parti Socialiste contre le premier secrétaire Olivier Faure.
Oui, bien sûr, mais surtout en effet, comme vous l'avez dit, ces alliances, bien souvent, elles n'ont pas été payantes et même elles ont plombé, hein, on pourrait le dire, le PS. Et c'est pour ça que c'est vraiment très intéressant de suivre le comportement, enfin vraiment de le disséquer, hein, tout cela sera fait évidemment très 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 vite, le comportement des électorats de gauche et donc là en l'occurrence de l'électorat socialiste. Dans ces cas-là, on voit que y a beaucoup d'endroits où ils n'ont pas suivi ces alliances, c'est-à-dire où ils ont désapprouvé, en tout cas ils l'ont montré dans les urnes, où ils ont désapprouvé ce ralliement du PS à LFI, parce que autant dans l'esprit de la gauche, dans la doxa de la gauche, il est logique de se rassembler, de se réunir quand on est en péril électoral, mais plutôt face à un péril d'extrême droite. Or, à Toulouse, donc là où a eu lieu l'une des plus spectaculaires des alliances où les socialistes locaux se sont rangés derrière la bannière d'un insoumis qui est arrivé juste devant eux, François Picmal, et où ils ont été battus par le maire sortant qui n'avait rien vraiment d'un danger fasciste, puisque c'était Jean-Luc Moudenc qui a été réélu, qui justement est quelqu'un qui avait quitté LR il y a quelques années parce qu'il trouvait que son parti se droitisait un peu trop. Également, contre nature, pourrait-on presque dire, mais alors là, c'est pas le PS, c'était les écologistes qui s'étaient alliés au LFI à Strasbourg, et tout ça pour tenter de barrer la route d'une socialiste historique, Catherine Trottmann, qui a été réélue. Donc on voit que ça a plutôt été sanctionné, et plus encore dans des villes, par exemple, des fiefs, là aussi, solides et anciens du PS qui ont été balayés. Je pense évidemment à Clermont-Ferrand. Là aussi, alliance coupable, entre guillemets, en tout cas visiblement aux yeux de l'électorat de gauche, disons social-démocrate. Le maire a été battu et la droite l'emporte face à cette alliance. C'est également le cas à Brest. Et c'est d'autant plus frappant que c'est le cas dans des villes dont les maires étaient plutôt sur la tendance, enfin sur les positions d'un François Hollande, hein, François Hollande ou Jérôme Gage, c'est-à-dire ceux qui sont les plus hostiles à ces alliances. Eh bien, finalement, ils ont trahi leur conviction, en tout cas affichés, ils ont fait ces alliances et ils ont été battus. À signaler l'exception un peu notable de Johanna Roland à Nantes, voilà, qui est réélue parce que justement, face au danger de son concurrent de droite, elle avait choisi cette alliance avec LFI alors qu'elle est numéro 2 du PS et donc plutôt sur cette ligne auparavant non-alliance. Mais donc vous avez raison, bien sûr que ça va poser des questions et c'est vrai que ça attise toutes les critiques envers Olivier Faure qui avait été le premier à proclamer pendant des semaines pour les raisons que vous avez dit suite, c'est-à-dire l'espèce de compromission avec la violence. On se souvient que Jean-Luc Mélenchon, à aucun moment, n'a retiré son affection, comme il le dit, au mouvement Antifa Jeune Garde, donc même après le drame de Lyon et du militant tué. Évidemment, ces sorties, ces saillies à répétition, à connotation antisémite, Olivier Faure a condamné tout cela, et donc en disant pas d'alliance, et bien sûr au niveau national, ce qui est extrêmement hypocrite, parce qu'on voyait bien qu'au moment même où il prononçait ces mots, eh bien les alliances se nouaient dans tous les côtés sans qu'il n'y mette un terme.
Merci, c'était Coulisses politiques avec le journaliste et écrivain Henri Vernet, un podcast disponible sur Spotify et sur Radio Orient. Merci Henri.
Merci.
C'était Coulisses politiques avec Henri Vernet.